Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous pour ce magazine hebdomadaire proposé par la Fédération protestante de France. Chaque dimanche à 8h30 sur France Culture, Solae, le rendez-vous protestant. Beaucoup de joie et d'émotion en fait de vous retrouver en ce premier dimanche de septembre dans cette nouvelle formule sur laquelle nous travaillons depuis de longs mois avec toute une équipe de la Fédération protestante. Solae, le rendez-vous protestant, c'est donc désormais ce magazine pour proposer à l'ensemble des auditeurs de France Culture un regard protestant sur le monde, sur notre société, sur sa culture. Réfléchir ensemble autour du texte biblique, la parole, qui sera d'ailleurs tel un fil rouge dans chacune de nos émissions, pour lui offrir un espace et chercher à comprendre ce que cette parole peut nous révéler, nous indiquer, nous inspirer encore aujourd'hui. Solae, c'est le rendez-vous protestant avec des personnes très variées, des experts, mais aussi de simples témoins, des temps de dialogue, d'échange et parfois même entre des personnalités de la société civile et des représentants du protestantisme. On peut sans doute le résumer ainsi. Solae, le rendez-vous protestant, c'est le temps de la louange, de la rencontre et du témoignage. Alors, bienvenue à chacune et chacun dans ce premier numéro de Solae, le rendez-vous protestant. Depuis le 1er septembre et jusqu'au lundi 4 octobre, les églises chrétiennes proposent de vivre ensemble un temps pour la création. C'est une initiative mondiale écuménique voulue comme un moment pensé pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création, en célébrant, en changeant et en nous engageant ensemble à agir. Le temps pour la création, cette année, a pour thème « Une maison pour tous », renouvellement de l'oïkos de Dieu, nous invitant à une hospitalité envers les humains et toutes les créatures dans notre maison commune, le foyer, l'oïkos de Dieu. Solae, le rendez-vous protestant, pendant tout ce mois de septembre, a choisi d'accompagner ce temps pour la création avec 4 émissions où nous parlerons de la nature en lien avec la foi, de diverses façons, et avec différents invités qui, chacun, en fonction de ses particularités, nous donnera de porter un regard différent sur cette question. Et pour ce premier rendez-vous, nous le ferons autour de la Bible, avec un pasteur, un écrivain, un formateur, mais réunis en une seule et même personne, puisqu'il s'agit de Frédéric Baudin. Mais avant de le retrouver, je vais donner le micro à l'un des chroniqueurs qui interviendra régulièrement dans Solae, Vincent Smetana, qui va nous introduire dans cette thématique, à sa façon bien sûr, avec évidemment du décalage et puis toujours beaucoup de profondeur.
Alors, puisque la question ici est le sujet de cette chronique, c'est la création, je me suis demandé, Jean-Luc, si j'avais le choix, je veux dire le vrai choix, de considérer librement de parler de la création, c'est-à-dire du principe créateur, de la portée poétique somptueuse de l'œuvre, l'intention, le désir, l'agir d'un créateur, en faisant bien gaffe, évidemment, de ne pas tomber dans les clichés exagérés, rose dorée, la brouette de coucher de soleil à la guimauve, tout l'arsenal pompier d'une carte postale de ce qu'on appelle les merveilles de la création, j'ouvre, je ferme les guillemets, ou bien pire encore, que j'en arrive d'ici 2 minutes à parler d'écologie, oh là là. Eh bien, je vais prendre les deux. Je vous laisse les cartes postales, si vous voulez bien, et moi je garde l'écologie et la poésie, part vibrante de ce principe de création. Création, non féminin, ensemble de choses créées, considérées comme l'œuvre d'un créateur qui leur a donné existence, mot qui partage son étymologie avec le mot oraison, donc poème, prière, c'est joli ça, hein ? La création, disait le philosophe, c'est une espèce de production, si on entend par ce terme le fait de causer l'existence d'un objet ou d'un être qui, par conséquent, n'existait pas ou pas tels qu'ils sont avant d'être produits. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La main de Dieu jaillit du ciel pour séparer la lumière et les ténèbres. Paf ! Geste créateur inouï, différenciation du vide. C'est fort ça quand même, hein ? Il est celui qui donne l'existence même à l'objet de sa création, qu'il pose, par exemple vous, Jean-Luc, dans un contexte de vie, par exemple ici, dans ce studio de France Culture. C'est étonnant, hein ? Vous êtes étonnant, Jean-Luc. Moi aussi, d'ailleurs, quand j'y pense. Vous êtes, ils sont, nous sommes les hôtes étonnants de cette création. Voici, je vous donne, dit Dieu dans le jardin. Et là, c'est le moment où je parle de notre éco-responsabilité envers la création, qui serait, ben oui, que nous apprenions à considérer que nous sommes trait d'union entre la terre et le ciel. Nous sommes des êtres frontières, dit Grégoire de Nazianze au 4e siècle. Nous sommes chacun, chacune un microcosme, microtheos, disent les pères de l'Église. Et que je parle bien sûr du dérèglement climatique, mais je ne vais pas faire ça, parce que si je fais ça, tout de suite, ça va être l'incendie sur les réseaux sociaux de cette émission, des gens qui se fâchent et qui m'insultent, puis ceux qui insultent, ceux qui m'insultent, enfin vous savez comment ça se passe quand on froisse, donc pour éviter les sujets qui froissent comme l'écologie, je vais plutôt parler de poésie, ça ne risque rien, la poésie ça n'intéresse plus grand monde aujourd'hui, et c'est hélas, car là se trouve le principe même de création, dans la Bible, ce livre révolutionnaire qui ouvre tout le vaste champ des possibles de l'expérience intime de l'humain. Colère, douleur, épreuve, humeur, mais aussi ruisseaux sous bois, bêtes dans les champs, oiseaux dans les airs, bestioles sur le sol. Car le voici, le lien entre l'écologie et la poésie, l'émerveillement. La fraîcheur des commencements, l'enchantement visuel et sonore de la création. Le voilà, le dialogue avec le créateur. Car au-delà d'une réalité factuelle ou historique, d'un infini débat philosophique ou écologique, l'idée même de création n'est-elle pas d'abord dans l'enchantement de l'instant vécu, dans la profondeur de la méditation, dans la qualité de l'écoute et du silence, dans le dénuement du fragile murmure de la prière? Cette poésie de la création est tout entière un don inouï, une manière sans cesse renouvelée de s'abandonner à la grâce de Dieu. Allez, bonne continuation et bonne journée, Jean-Luc, et à bientôt.
Mais quelle énergie pour un dimanche matin. En tout cas, un grand merci, Vincent Smetana, pour cette première chronique dans Solae. Et en effet, à très bientôt. Pour faire suite, j'accueille Frédéric Baudin. Bonjour.
Bonjour.
Je le disais précédemment, vous êtes pasteur et plus précisément de l'Union des Églises Évangéliques Libres à Aix-en-Provence. Et puis vous êtes écrivain avec plus d'une dizaine de livres déjà parus. Et la chronique de Vincent tombait à pic en quelque sorte avec ce lien entre poésie et écologie. C'est un peu vous finalement, car votre dernier livre sorti cette année aux éditions CEM choisit une forme poétique pour interpeller et donner à réfléchir. Il s'appelle « Variations sur les motions ». Mais l'on peut aussi en citer plusieurs qui vont dans la thématique de ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, d'un jardin à l'autre, la Bible et l'écologie en 2013, qui a connu d'ailleurs l'année dernière une deuxième édition révisée et augmentée, puis également une traduction anglaise, alors c'est aux éditions Excelsis. Et puis je pense aussi à Wegoubri, un bocage au Sahel, là encore aux éditions CEM. Vous êtes membre fondateur de l'organisation écologique chrétienne Arocha France et dirigez actuellement l'association Culture Environnement Média, CEM justement. Vous consacrez enfin une partie de votre temps à la formation des pasteurs et des laïcs, en priorité dans les pays en développement, sur le thème développement durable et protection de l'environnement. L'amour de la création, c'est très clairement un élément moteur de votre vie, Frédéric Baudin.
Oui, en fait, ça remonte à mes études. J'ai d'abord étudié l'écologie avant la théologie, et c'est au fond le mariage de ces deux passions. J'en ajoute même une troisième, la littérature, puisque j'ai aussi suivi des études de lettres modernes. Tout cela m'a conduit à enseigner, à travailler pour la protection de l'environnement, le développement durable, on reviendra sur ces notions, mais dans une perspective, disons, spirituelle et aussi pratique. Je n'oublie pas le versant bien pratique de tout l'enseignement que l'on peut avoir dans ce domaine.
Ce matin, nous avons fait le choix ensemble, en préparant cette émission, d'aborder la question écologique sous l'angle biblique. C'est capital à vos yeux et ça fait sans doute toute la différence.
Oui, parce que j'estime que le discours écolo-chrétien, si on peut l'appeler ainsi, finit par ne plus se distinguer du discours général. En fait, on fait les mêmes constats. Nous sommes d'ailleurs globalement d'accord. Nous avons un peu les mêmes propositions. Nous proposons les mêmes remèdes à tout ce qui se passe aujourd'hui, du dérèglement climatique, de la préservation de la biodiversité, enfin tous ces termes qui sont devenus extrêmement courants. Mais au fond, rien de spécifiquement biblique ou chrétien n'est proposé dans le discours ambiant. Et je pense quant à moi que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, transforme un individu et produit des fruits. C'est le rôle même de l'Évangile, et nous y reviendrons, que de produire des actes concrets, alors en principe, dans tous les domaines, mais y compris, bien sûr, le soin que l'on peut apporter à la création, ce qu'on appelle aussi la protection de l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous environne, littéralement. Et nous avons pour cela une motivation spécifique. C'est pour cela que j'aime insister sur ce point. Nous avons une motivation spécifique qui est notre amour pour Dieu et pour notre prochain.
Alors justement, nous parlons de la Bible. La parole sera le fil rouge de ce nouveau rendez-vous protestant, Solae. C'est une écoute d'un passage de la Bible. Et le texte que vous avez choisi pour cette première émission nous conduit assez logiquement, finalement, pour entrer dans cette thématique, au tout commencement. Au commencement de tout, dans la Genèse, le premier livre, chapitre 1er, versets 26 à 28, et puis chapitre 2, versets 15 à 17, et c'est avec la voix d'Emmanuela Martineau.
Dieu dit : faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Merci beaucoup Emmanuela. Frédéric Baudin, on l'a entendu et vous partez d'ailleurs de ce constat dans votre livre « La Bible et l'écologie ». Nous avons été mandatés par le Créateur en tant qu'être humain, libre et responsable, pour prendre soin de la création, de sa création. Alors deux choses, le Créateur d'abord, on part forcément là d'un présupposé, il y a une dimension de foi qui intervient, Dieu, Créateur. Et puis il y a un mandat qui peut se traduire par se prendre soin, mais qui est développé avec une responsabilité de remplir, soumettre, dominer, cultiver et garder. Vous l'entendez comment, vous, personnellement, ce mandat donné par le Créateur aux êtres humains ?
Alors oui, en effet, nous croyons, comme d'ailleurs le déclarent les grands credos de l'Église ancienne, nous croyons en un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Un Dieu qui est à l'origine du monde et qui s'en distingue. C'est vraiment une grande différence avec toutes les cosmologies proposées dans le Proche-Orient ancien, où Dieu se confond, où les dieux se confondaient avec, disons, la création, avec ce monde. Là, nous avons un Dieu qui est totalement distinct de ce monde, mais pas absent pour autant, et qui en tout cas est à l'origine de tout ce qui est créé, créé, on peut le dire tout de suite, par amour. Alors nous ne sommes pas pour autant ce qu'on appelle couramment des créationnistes, vous savez, certains chrétiens ont une lecture très littérale du premier livre et surtout du premier chapitre de la Genèse, mais si nous ne tirons pas une interprétation, disons, très littérale de ce texte, nous ne concluons rien sur la manière dont Dieu a créé le monde. Pourtant, nous affirmons que Dieu a bien créé ce monde en lui donnant un sens, avec une intention qui se manifeste entre autres par cette diversité étonnante de la nature. Et je revendique pour ma part le droit, et je ne suis pas le seul, j'en suis bien conscient, le droit à l'émerveillement devant une certaine beauté, le désir de vivre, d'aimer, de goûter, de sentir, d'apprécier tout ce qui est bon et beau dans ce monde, même si je reste sans réponse devant l'épineuse question du mal, quoiqu'elle ne soit pas évitée dans la Bible, bien au contraire. Alors ce Dieu créateur a donné aux êtres humains un mandat, une mission, qui est alors de peupler, remplir, c'est peupler ce monde, mais aussi d'en prendre soin, d'être comme ses représentants sur cette terre pour en cultiver les ressources et les faire fructifier pour notre bien, mais aussi pour le bien de l'ensemble de cette création.
En tout cas, on a le sentiment quand même que l'homme a bien du mal avec ce mandat culturel qui lui est donné.
Oui, alors dans la Genèse, premier livre de la Bible, le troisième chapitre évoque ce que nous appelons la chute, en termes théologiques, cette révolte contre Dieu, qui est en fait une revendication à vivre sans Dieu, à ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire d'être une loi pour soi-même, à définir le bien et le mal, puisqu'il s'agit de ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien définir le bien et le mal sans Dieu, sans référence à Dieu, à sa loi, d'où la tentation de franchir, on pourrait dire, les limites, de transgresser cette limite entre le bien et le mal, et tout cela conduit à une sorte de démesure, une soif excessive du pouvoir, de la puissance, de la domination, de l'exploitation des ressources, pour soi-même et sans mesure. Au fond, nous avons, pour reprendre les deux verbes de la Genèse, nous avons beaucoup cultivé et très peu gardé ce fameux jardin dans lequel Dieu nous a placés.
Vous faites un lien étymologique intéressant dans l'un de vos livres entre écologie et économie. Et pourtant, c'est bien là que se situe une partie du problème, semble-t-il, dans notre difficulté avec la création.
Oui, alors écologie, économie, on entend écho, ça vient du grec, oikos,
forcément.
La maison. La maison, c'est prendre soin de cette maison, c'est aussi économiser, on a perdu un petit peu le sens en parlant d'économie, d'économiser. Il s'agit là de combattre une sorte d'avarice, d'idolâtrie de l'argent. Vous savez que l'apôtre Paul, dans ses lettres, à deux reprises, dénonce cette avarice, ce désir de puissance avec l'argent, comme comme une idolâtrie, comme un culte du veau d'or, pour évoquer l'un des sujets de l'Ancien Testament. Alors, il s'agit de revenir à une certaine mesure, on pourrait dire une modération, une économie dans le meilleur sens du terme, pour prendre soin de sa maison, pour bien la gérer, pour en gérer toutes les ressources, pour le plus grand nombre, je le disais, et évidemment pour l'harmonie de l'ensemble. Alors, le grand problème qui se pose, bien sûr, c'est avec quelle motivation ? Est-ce que c'est la peur qui va jouer, et on l'entend beaucoup dans le discours écolo au sens général aujourd'hui, on agit beaucoup sur cette corde sensible, mais on le sait, la peur n'est pas toujours bonne conseillère. Et il vaut mieux, à mon sens, agir plutôt avec cette foi, cette confiance qui est l'inverse de la peur, la confiance en Dieu, qui donne un ressort tout à fait nouveau pour nous, chrétiens, et croyants en ce Dieu créateur. Nous pouvons être motivés par l'amour, je le disais, l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, et ça me semble une excellente motivation. Cette dénonciation de la démesure, elle n'est pas nouvelle. Les Grecs, bien sûr, la dénonçaient déjà dans la lubris, comme on dit, la démesure en grec, et c'est un des grands discours des philosophes de l'Antiquité, mais j'ai noté en 2008, ça m'est resté en mémoire, un éditorial de Claude Imbert dans l'hebdomadaire Le Point qui s'exprime à propos de la crise économique à l'époque en disant mais le principal coupable de cette crise, évidence oubliée, c'est la démesure. Cette hubris où les anciens Grecs identifiaient le poison majeur de la vie collective. Voilà donc un écho encore récent et on l'entend maintenant de plus en plus, cette dénonciation de cette présomption, de l'idée de franchir toujours les limites, d'aller de plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus fort avec tous les dégâts que cela peut causer.
Je vous propose d'alimenter notre réflexion avec une chanson de Francis Cabrel, un classique de ce poète-chanteur qui imagine Dieu assis sur le rebord du monde.
J'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait.
Sur France Culture, dans Solae, le rendez-vous protestant, assis sur le rebord du monde par Francis Cabrel. Et si on s'asseyait avec Dieu sur ce rebord du monde, Frédéric Baudin, je n'ai pas le sentiment quand même non plus avec vous que vous ayez cette tendance à plonger dans un catastrophisme écologique, même si bien sûr le constat que vous établissez n'est pas brillant. C'est plutôt l'espérance qui semble l'emporter malgré tout dans votre approche des choses.
Oui, alors on peut être catastrophiste, j'allais dire, assez facilement. Effectivement, il y a de quoi. Voilà, le constat dressé par les scientifiques dans le monde entier, le réchauffement climatique, etc., etc. On va pas refaire la liste.
C'est pas brillant.
Mais c'est pas très brillant. Oui, alors l'espérance. L'espérance, c'est ce que nous espérons mais déjà dans ce monde. Si nous sommes cohérents avec notre foi, en tout cas en tant que croyants, chrétiens, avec ces fruits tangibles de notre foi qui peuvent apporter, il me semble, une amélioration. Mais c'est aussi notre espérance au-delà de ce monde. Alors, on nous reproche parfois en disant « mais vous rêvez, vous pensez à l'avenir extrêmement lointain, le retour de Jésus-Christ, la nouvelle création, des choses qui nous paraissent pas très tangibles dans notre civilisation, notre société actuelle ». Mais il me semble que cette espérance justement nous porte. elle nous porte à montrer les signes de cette espérance d'ores et déjà dans ce monde, dans la façon dont nous vivons dans ce monde, à faire preuve de créativité. Nous sommes créés à l'image de Dieu, capables de penser, d'agir, d'aimer, et c'est cela l'image. Et la mettre en œuvre, eh bien, c'est faire preuve de créativité pour trouver des solutions, et pas se désespérer devant l'état du monde. Il a parfois été pire dans le passé, beaucoup de cette pandémie d'aujourd'hui, mais qu'aurions-nous dit au XIVe siècle avec la peste noire ? Donc, on a quand même encore des atouts. Une réforme est toujours possible, il me semble qu'il n'est jamais trop tard. Alors, bien sûr, j'assois toujours mon discours sur l'Évangile, cette bonne nouvelle. Et elle me semble essentielle dans la vie du chrétien, comme, encore une fois, motivation pour prendre soin de ce monde aujourd'hui. Je donne un exemple toujours très simple. Nos corps sont mortels, hélas. Nous allons mourir un jour et pourtant nous en prenons soin tous les jours. Nous nous lavons, nous mangeons et nous faisons du sport, et heureusement. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Même si on considère que le monde va mal et qu'il va même de plus en plus mal, certains sont très catastrophistes, on entend beaucoup ce discours, eh bien, prenons le contre-pied et prenons soin de ce monde autant qu'il est possible, sans se laisser dominer par cette pensée très négative.
Il y a une expression qui revient assez souvent, intéressante d'un point de vue spirituel également, chrétienne. On parle beaucoup de conversion écologique. Ce n'est pas pourtant un terme qui vous semble convenir.
Conversion écologique est une expression qui a été utilisée par le pape François dans sa lettre encyclique, Laudato Si. C'est une expression intéressante, et peut-être un peu ambiguë, d'où le questionnement sur cette expression conversion écologique. En fait, on se convertit à Dieu, et la conversion, c'est d'abord une conversion à Dieu, et cette conversion à Dieu produit un certain nombre de bons fruits qui nous portent en effet à prendre soin notamment de ce qu'il a créé. Alors, pour reprendre les choses un petit peu dans l'ordre et faire justice au pape François, lorsqu'il parle de conversion écologique dans sa lettre encyclique, il commence par dire qu'il propose aux chrétiens quelques lignes de cette spiritualité écologique qui trouvent leur origine dans des convictions de foi. Et le pape ajoute, je le cite littéralement, c'est ce que nous enseigne l'Évangile. L'Évangile a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne s'agit pas de parler tant d'idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde. Et là, une fois rappelé, disons, cette citation, il me semble que tout est clair. Le pape François ne dit rien d'autre que l'Évangile, comme principe de conversion à Dieu, produit des actes concrets, dont celui, bien sûr, de prendre soin de ce monde dans lequel nous sommes placés. Il dit encore, un petit peu plus loin, que nous avons besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Et là, les choses sont tout à fait claires. Et c'est bien sur ce point que j'insiste, hein, sur cet évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ venu dans ce monde, mort et ressuscité, et qui nous donne cette vie, qui nous l'offre gratuitement, on parle de la grâce, et qui nous met en mouvement, mais pas seulement pour la prière et les choses un peu abstraites, mais aussi dans le concret de la vie, dont bien sûr le soin que l'on peut apporter à la création de Dieu. Je prends souvent l'exemple d'un artiste qui aurait peint un très beau tableau de grande valeur. Si nous l'avions chez nous, ben, nous le mettons tout de suite en valeur. Et nous n'allons pas le laisser gâcher par les enfants qui vont lancer des fléchettes ou je ne sais quoi. Donc on prend soin de ce que Dieu a créé parce qu'il est le créateur et nous le respectons en tant que tel.
À mon tour de vous citer, je vous lis. Il n'est pas question de verser dans un moralisme étroit et intransigeant, mais au contraire de promouvoir une écologie enthousiaste, fruit d'une relation vivante avec Dieu, une attitude respectueuse de l'environnement, libre et responsable, par grâce, justement, un mode de vie fondé sur une modération heureuse et une consommation confiante, par la foi au Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, de qui proviennent et pour qui sont toutes choses. Concrètement, ça se passe comment ? J'ai notamment entendu parler de faire reverdir le désert au Sahel. L'ONG Arocha, que vous avez cofondée, s'implique aussi dans divers projets de multiples façons.
Oui, alors j'ai toujours été travaillé par le versant pratique de la foi, et en particulier dans ce domaine, parce que c'était au fond mon premier domaine d'élection. J'ai étudié l'écologie en tout premier lieu et travaillé d'abord dans ce domaine. Pour ce qui est du désert au Sahel en particulier, où je suis allé à de multiples reprises, j'ai un jour, au détour, à la suite d'un retour de mission pour une ONG, on m'avait demandé de faire un détour à la ferme de Guié, dans le Sahel, au Burkina Faso, donc à peu près 60 km au nord de Ouagadougou. Et j'ai visité donc cette ferme et je suis resté absolument stupéfait devant le résultat. En fait, cet homme, Henri Girard, a créé littéralement un bocage. Alors un bocage, c'est un système agricole avec des haies bocagères que l'on plante, des arbres qui vont entourer les champs, qui vont de cette façon retenir l'eau de pluie. Et tout est fait avec l'eau de pluie qui tombe très très rapidement. C'est deux mois, juillet-août, un petit peu en juin, un petit peu en septembre. Mais il faut donc essayer de capitaliser cette eau et de lui donner toute la rentabilité qu'on peut espérer. Et avec ce système bocager, les champs sont eux-mêmes séparés par des haies bocagères. Et ce système agricole a permis d'accroître les rendements de façon spectaculaire, 2 à 3 fois par rapport au rendement traditionnel. Et je me suis dit, mais voilà, une écologie pratique. Alors il se trouve qu'Henri Girard partage ma foi chrétienne et nous nous sommes retrouvés aussi sur ce plan. Mais lui travaille avec les gens de tous bords, si je puis dire, au Burkina Faso. En tout cas, le résultat, c'est que les gens qui vivent dans ce milieu ingrat, qui a été aussi en partie détruit à cause de la culture surbrûlée, du surpâturage, etc. Ces gens, avec ce système agricole, ont retrouvé de quoi vivre, c'est-à-dire se nourrir. On parle beaucoup de l'Afrique, j'ai entendu des projets, il faut électrifier l'Afrique. Oui, c'est très intéressant, mais les gens doivent d'abord manger à leur faim. C'est la priorité. Et c'est pourquoi ce projet m'a beaucoup intéressé. J'ai ensuite interviewé Henri Girard très longuement.
Alors, il y a un livre, voilà. Un joli entretien qui existe, donc Ouégoubri, un bocage au Sahel, aux éditions CEM. Si les gens veulent aller plus loin, ils peuvent tout à
absolument,
fait...
Absolument, ou sur le site de Terre Verte, Eau, Terre Verdure, tout est indiqué dans ce site sur la technique agricole employée, sur l'histoire, etc. Et c'est un récit passionnant de ce que Henri Girard a pu faire là dans le désert et qui s'étend aujourd'hui. Il y a un certain nombre de fermes maintenant qui sont en place.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Baudin. Le temps passe très vite, mais nous aurons l'occasion, je l'espère, de vous réentendre sur le sujet. Puis je rappelle votre livre « Variations sur l'émotion », un très joli livre poétique aux éditions CEM pour découvrir aussi une autre facette de votre talent. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Biadreau et avec Éric Boisset à la prise de son. Merci à Vincent Smetana, Emanuela Martineau et Frédéric Baudin pour leur participation ce matin à cette première de Solae. Cette émission est à réécouter et podcaster sur le site de France Culture, sur l'application Radio France et également sur le site protestantaupluriel.org. Pour nous écrire, un courriel, communication@fédérationprotestante.org. Je vous souhaite un très bon dimanche qui se poursuit sur France Culture avec, dans quelques instants, le journal suivi de Talmudique. Dancing, 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 dancing.
listening to music.